La remontée historique du prix des actifs. Le dernier facteur expliquant la hausse du rapport capital-revenu au cours des dernières décennies est la remontée historique du prix des actifs. Autrement dit, la période 1970-2010 ne peut être correctement analysée que si on la remet dans un contexte historique plus long, celui de la période 1910-2010. Nous ne disposons pas de sources historiques complètes pour l'ensemble des pays développés, mais les séries que nous avons établies pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis donnent des résultats tout à fait convergents que nous résumons ici. Si l'on prend l'ensemble de la période 1910-2010, ou bien 1870-2010, on constate que l'évolution globale du rapport capital-revenu est très bien expliquée par la loi dynamique bêta égale S sur G. En particulier, le fait que le rapport capital-revenu soit structurellement plus élevé à long terme en Europe qu'en Amérique est parfaitement cohérent avec le différentiel de taux d'épargne et surtout de taux de croissance au cours du siècle écoulé. Entre 1870 et 2010, le taux moyen de croissance du revenu national est d'environ 2,2% en Europe, dont 0,5% pour la croissance de la population, et de 3,4% aux États-Unis, dont 1,5% pour la population. La chute de la période 1910-1950 est cohérente avec la faible épargne nationale et les destructions qui ont lieu pendant ces années, et le fait que la remontée du rapport capital-revenu soit plus rapide dans la période 1980-2010 qu'au cours des années 1950-1980 est bien expliqué par l'abaissement du taux de croissance entre les deux sous-périodes. Il n'en reste pas moins que le point bas des années 1950 est plus bas que ce que prédirait la simple logique d'accumulation résumée par la loi bêta égale S sur G. Pour comprendre l'ampleur du creux du milieu du XXe siècle, il faut ajouter le fait que le prix des actifs mobiliers et boursiers sont historiquement bas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour les multiples raisons expliquées dans les deux chapitres précédents, politique de blocage des loyers et de régulation financière, climat politique peu favorable au capitalisme privé, puis se redresse progressivement depuis les années 1950, avec une accélération à partir des années 1980. D'après nos estimations, le processus de rattrapage historique du prix des actifs semble aujourd'hui achevé. Par-delà les soubresauts et les évolutions erratiques de court terme, la hausse de la période 1950-2010 semble avoir approximativement compensé la baisse de la période 1910-1950. Il serait cependant hasardeux d'en conclure que la phase de hausse structurelle du prix relatif des actifs est définitivement terminée et que les prix des actifs vont désormais progresser exactement au même rythme que les prix à la consommation dans les décennies à venir. D'une part, les sources historiques sont incomplètes et imparfaites, et les comparaisons de prix sur des périodes aussi longues ne peuvent être qu'approximatives. D'autre part, il existe de multiples raisons théoriques pour lesquelles les prix des actifs peuvent évoluer différemment des autres prix à long terme, par exemple parce que certains types d'actifs, bâtiments, équipements, connaissent des rythmes de progrès techniques différents du rythme moyen de l'économie, ou bien du fait de l'importance de certaines ressources naturelles épuisables. Nous reviendrons sur ce point. Enfin, et surtout, il nous faut de nouveau insister sur le fait que le prix du capital, par-delà les bulles de court et moyen terme qui le caractérisent toujours, et les éventuelles divergences structurelles à long terme, est toujours pour partie une construction sociale et politique. Il reflète la notion de propriété qui prévaut dans une société donnée et il dépend de multiples politiques et institutions régulant les relations entre les différents groupes sociaux concernés et en particulier entre ceux qui possèdent du capital et ceux qui n'en possèdent pas. Cela est évident, par exemple, pour les prix immobiliers qui dépendent des réglementations en vigueur concernant les relations entre propriétaires et locataires et la revalorisation des loyers. Cela concerne également les cours boursiers, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, lorsque nous avons évoqué la valeur de marché relativement faible qui caractérise les entreprises allemandes. De ce point de vue, il est intéressant d'analyser pour les pays pour lesquels de telles données sont disponibles l'évolution du rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable des sociétés au cours de la période 1970-2010. Voir graphique 5.6. Les lecteurs jugeant ces questions trop techniques peuvent sans difficulté majeure passer directement à la section suivante. La valeur de marché correspond à la capitalisation boursière pour les sociétés cotées. Pour celles qui ne le sont pas, soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce qu'elles choisissent de ne pas faire appel au marché boursier, par exemple pour conserver leur caractère familial, ce qui peut arriver dans de très grandes sociétés, la valeur de marché est calculée dans les comptes nationaux par référence au cours boursier observé pour des entreprises cotées ayant des caractéristiques aussi proches que possible, secteur d'activité, taille, etc., et en tenant compte de la liquidité du marché en question. Ce sont ces valeurs de marché que nous avons jusqu'ici utilisées pour mesurer les stocks de patrimoine privé et de patrimoine national. La valeur comptable, aussi appelée valeur de bilan, book value, ou actif net comptable, ou fonds propres, est égale à la valeur cumulée de tous les actifs, immeubles, équipements, machines, brevets, participation majoritaire ou minoritaire dans des filiales et d'autres sociétés, trésorerie, etc., figurant au bilan de l'entreprise, diminué de toutes les dettes. En principe, en l'absence de toute incertitude, la valeur de marché et la valeur comptable des sociétés devraient être les mêmes, et le rapport entre les deux devrait donc être égal à 1 ou 100%. C'est normalement ce qui se passe à la création d'une société. Si les actionnaires souscrivent des actions pour 100 millions d'euros, que l'entreprise utilise pour acheter des bureaux et équipements d'une valeur de 100 millions d'euros, alors la valeur de marché et la valeur comptable seront toutes deux égales à 100 millions. Il en va de même si la société emprunte 50 millions pour acheter de nouvelles machines d'une valeur de 50 millions. L'actif net comptable sera toujours égal à 100 millions, 150 millions d'actifs diminués de 50 millions de dettes, de même que la capitalisation boursière. Il en ira toujours de même si l'entreprise fait 50 millions d'euros de profit et décide de les mettre en réserve pour financer de nouveaux investissements d'une valeur de 50 millions. Les cours boursiers monteront du même montant, car chacun sait que l'entreprise possède de nouveaux actifs. Si bien que la valeur de marché, comme la valeur comptable, passeront à 150 millions. La difficulté vient du fait que la vie d'une entreprise devient très rapidement beaucoup plus complexe et incertaine. Par exemple, au bout d'un certain temps, personne ne sait plus très bien si les investissements de 50 millions réalisés quelques années plus tôt sont véritablement utiles pour l'activité économique de l'entreprise. La valeur comptable et la valeur de marché peuvent alors diverger. L'entreprise continue d'inscrire dans son bilan les investissements réalisés, bureaux, machines, équipements, brevets, etc., à leur valeur de marché, si bien que la valeur comptable est inchangée. La valeur de marché de l'entreprise, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, peut quant à elle être nettement inférieure ou fortement supérieure, suivant si les marchés financiers sont devenus soudainement pessimistes ou optimistes concernant la capacité de l'entreprise à utiliser ses investissements pour générer de l'activité et des profits. C'est pourquoi on observe toujours en pratique d'énormes variations dans le rapport entre valeur de marché et valeur comptable au niveau des sociétés prises individuellement. Par exemple, ce rapport également appelé Q de Tobin, suivant l'économiste James Tobin qui l'a défini en premier, varie d'à peine 20% à plus de 340% si l'on examine les sociétés françaises cotées au CAC 40 en 2012. Il est plus difficile de comprendre pourquoi le Q de Tobin, mesuré au niveau de l'ensemble des sociétés d'un pays, devrait être systématiquement inférieur ou supérieur à 1. On distingue classiquement deux explications. Si certains investissements immatériels, les dépenses réalisées pour accroître la valeur de la marque, ou bien les dépenses de recherche et développement, ne sont pas bien pris en compte au bilan, alors il est logique que la valeur de marché soit en moyenne structurellement supérieure à la valeur de bilan. Cela peut expliquer les ratios légèrement supérieurs à 1 observés aux États-Unis, environ 100%, 120%, et surtout au Royaume-Uni, environ 120%, 140%, à la fin des années 1990 et pendant les années 2000. On remarquera toutefois que ces ratios supérieurs à 1 reflètent également dans les deux pays des phénomènes de bulles boursières. Les Q de Tobin retournent rapidement vers 1 lors de l'éclatement de la bulle Internet en 2001-2002, comme lors de la crise financière de 2008-2009. Inversement, si le fait de posséder les actions d'une entreprise ne donne pas tous les pouvoirs, en particulier parce que les actionnaires doivent composer avec les autres stakeholders de l'entreprise, représentant des salariés, autorités publiques locales ou nationales, associations de consommateurs, etc., dans le cadre d'une relation de long terme, comme dans le cas du capitalisme rhénan évoqué dans le chapitre précédent, alors il est logique que la valeur de marché soit en moyenne structurellement inférieure à la valeur de bilan. Cela peut expliquer les ratios légèrement inférieurs à 1 observés en France, autour de 80%, et surtout en Allemagne et au Japon, environ 50-70% dans les années 1990-2000, alors que les pays anglo-saxons s'approchent ou dépassent les 100%. Il faut aussi noter que la capitalisation boursière est calculée à partir des prix des actions observées pour les transactions courantes, qui correspondent généralement à des petites prises de participation minoritaire, et non à des prises de contrôle, pour lesquelles il est habituel de payer un prix sensiblement plus élevé que le prix courant, typiquement de l'ordre de 20% plus élevé. Cela peut donc suffire à expliquer un Q de Tobin de l'ordre de 80%, y compris en l'absence de tout stakeholder autre que les actionnaires minoritaires. Au-delà de ces variations intéressantes entre pays, qui témoignent du fait que le prix du capital dépend toujours des règles et des institutions du pays étudié, on constate une tendance générale à la hausse du Q de Tobin dans les pays riches depuis les années 1970, ce qui reflète le phénomène de remontée historique du prix des actifs. Au total, si l'on prend en compte à la fois la hausse des prix boursiers et immobiliers, on peut considérer que la remontée du prix des actifs explique en moyenne entre un quart et un tiers de la hausse du rapport capital national-revenu national dans les pays riches entre 1970 et 2010, avec de fortes variations entre pays.